Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Avant de quitter le pouvoir, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a adopté dans la précipitation une série de mesures qui promettent de compliquer la tâche de l'administration Biden. Inscription des rebelles houthistes du Yémen sur la liste des organisations terroristes, renforçant l'alignement de Washington sur les positions saoudiennes. Durcissement des relations avec Téhéran en accusant l'Iran d'être devenue la nouvelle base de la nébuleuse terroriste Al-Qaïda, avec au passage l'annonce d'un dernier volet de sanctions. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le replacement de Cuba sur la liste des pays qui parrainent le terrorisme au même titre que l'Iran, la Corée du Nord et la Syrie. La version de Donald Trump pour Cuba aura sévi jusqu'à la toute fin de son mandat, qui aura fait pleuvoir plus de 190 sanctions sur l'île en 4 ans. Le placement de Cuba sur la liste noire vis évidemment à bloquer un retour au dialogue historique engagé par Barack Obama en décembre 2014. Elle va restreindre son commerce extérieur et exposer les investisseurs étrangers sur l'île à des poursuites aux États-Unis. Elle va compliquer la relation avec Cuba du nouveau gouvernement de Joe Biden et aggravera les difficultés économiques des 11 millions de Cubains. Joe Biden pourra-t-il réconcilier Cuba et l'Amérique et aller jusqu'à demander la levée inconditionnelle de l'embargo par le Congrès américain ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. En studio avec moi, Jeannette Abel, politologue, enseignante à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Bonjour.
Bonjour.
Mathias Fekel, ancien ministre, avocat, fondateur du cabinet Audi Dupray Fekel. Bonjour.
Bonjour.
Et Stéphane Witkowski, président de Bâle Conseil, enseignant à l'ILERI et président du Conseil d'orientation stratégique de l'IHEL. Bonjour.
Bonjour.
Les États-Unis avaient déjà placé Cuba sur les listes noires des pays parrainant le terrorisme. En 1982, sous la présidence républicaine de Donald Reagan, Barack Obama l'en avait retiré en 2015, quelques mois avant que les deux pays n'établissent des relations diplomatiques. Alors, pour justifier sa décision, le secrétaire d'État de Donald Trump, Mike Pompeo, a accusé l'administration castriste d'héberger des criminels américains, des rebelles colombiens des FARC et de refuser d'extrader vers Bogota 10 anciens dirigeants de la guérilla de l'armée de libération nationale, l'ELN pour Ejército de Liberación Nacional. Quelle lecture faire de cette décision de l'administration Trump ? Est-ce qu'il faut en particulier y voir une réaction à l'échec essuyé par Washington au Venezuela, un allié de la Havane, échec à faire partir le président Maduro, Mathias Fekel ?
Je pense qu'il y a plusieurs grilles d'analyse. De cette fin d'administration pathétique de l'administration Trump. La première lecture est une lecture psychologique. La version personnelle du président sortant pour Cuba, je pense qu'elle est un peu courte. La deuxième est une raison de politique intérieure américaine et elle me semble beaucoup plus pertinente. Le sujet cubain est depuis 1959, depuis la révolution cubaine, un sujet brûlant aux États-Unis en raison de la présence de nombreux exilés dans le pays, en particulier en Floride. Et le président Trump a souhaité, jusqu'à la dernière minute, cultiver cet électorat-là avec une décision dont il faudra voir ensuite la réalité, parce qu'il est assez probable que l'administration Biden, d'une manière ou d'une autre, revienne sur cette politique-là.
Jeannette Abel.
C'est vrai que c'est une décision ahurissante. Je note quand même que le secrétaire d'État Mike Pompeo n'a pas donné un seul nom de terroriste hébergé par Cuba, parce que les rebelles colombiens, les ex-rebelles membres des FARC qui se trouvent à La Havane, compte tenu de la situation en Colombie et compte tenu des assassinats qu'il y a eu, peuvent parfaitement, le gouvernement cubain peut parfaitement argumenter d'un droit d'asile justifié. Et donc, la deuxième raison évoquée par Mathias Fekel, c'est l'électorat de Floride et le fait que la Floride est un État très important pour le collège électoral lors de la présidentielle aux États-Unis, parce que le nombre de grands électeurs en fait un État absolument clé, et que dans la perspective annoncée d'ailleurs, lors de son discours de départ par Donald Trump, de ne pas arrêter là ses campagnes politiques et ses projets politiques, eh bien cet État et cet électorat en particulier qui joue un rôle déterminant. C'est comme ça parce que par sa concentration dans cet État, eh bien il cultive cet électorat dans la perspective d'un avenir politique ultérieur qu'il a plus ou moins annoncé et qu'il veut préparer.
Alors, Stéphane Witkowski, je me tourne vers vous. Donc, une portée de politique intérieure assez forte pour les États-Unis.
Oui, je partage l'analyse de Jeannette Abel et Mathias Fekel. Je précise que, sur le fond, cette décision est absurde. C'est Cuba qui est la victime du terrorisme depuis 1959. Il y a eu plus de 3478 personnes victimes du terrorisme à Cuba. Et notamment en 1976, vous savez, cet avion de ligne qui a été victime de cet acte terroriste, donc par des actes commis par des organisations sous égide des associations nord-américaines de Miami. Sur le fond, donc, c'est une décision absurde. Je crois que sur la forme, c'est beaucoup plus une préoccupation de politique intérieure américaine, mais que j'expliquerai un petit peu différemment. Je crois que c'est beaucoup plus la volonté de nuire à la présidence Biden que véritablement de flatter l'électorat de cette communauté cubano-américaine en Floride, car comme vous regardez les chiffres de près, Trump a été en minorité en Floride par cette communauté-là. Certes, il a remporté la Floride.
Mais il a remporté la Floride.
La majorité, en effet, la majorité de cet électorat cubano-américain est en faveur de Biden. Donc je crois que cet argument ne compte moins, me semble-t-il, dans l'avenir, mais qu'en revanche, il souhaitait absolument effacer systématiquement tous les signes de la politique Obama. Et la question qui se pose, est-ce qu'il va reprendre la nouvelle présidence Biden, est-ce qu'elle va reprendre l'héritage Obama ou pas?
Alors, précisément, et je me tourne vers l'avocat que vous êtes, Mathias Fekel, alors on a vu mercredi le président Biden être investi, très vite il a signé un certain nombre de décrets qui permettent de détricoter ce qui a été fait par Donald Trump, lequel avait lui-même détricoté ce qu'avait fait Obama. Je pense notamment au retour donc de Washington à l'accord de Paris, et puis au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, question, est-ce que Joe Biden peut annuler la sanction et quelles sont les contraintes pour ce faire, Mathias Fekel?
Ce qu'on comprend, il faut toujours être prudent, c'est tout de même le souhait de retourner à une politique plus ouverte, en partant aussi du constat que l'attitude américaine depuis 60 ans n'a pas fonctionné, quel que soit le jugement moral que l'on porte par ailleurs, ou le jugement politique. L'embargo, le blocus, les différentes sanctions, les tentatives de déstabilisation ont toutes échoué, voire ont même plutôt contribué à souder les Cubains dans un anti-américanisme très très puissant. Donc Biden, qui est un homme pragmatique, aura sans doute à cœur de revenir là-dessus. Ensuite, il y a la question de sa majorité au Congrès, des alliances éventuelles qu'il sera obligé de forger pour revenir sur un certain nombre de régimes de sanctions. Régimes de sanctions qui ont un effet très dur à Cuba. C'est des choses très concrètes. Il y a l'interdiction des croisières, les difficultés pour les Américains à voyager, les difficultés à envoyer de l'argent. Et puis, il y a la problématique très grave de l'extraterritorialité, de l'effet extraterritorial de ces différentes sanctions qui dissuadent de manière massive les investisseurs internationaux pour leurs projets économiques à Cuba.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors, Mathias Fekel l'a dit, interdiction des escales à Cuba pour les croisières américaines, liste noire pour une série d'entreprises et de dirigeants cubains, poursuite contre des entreprises étrangères présentes sur l'île. Jeannette Abel, après 4 ans de dures sanctions par l'administration de Donald Trump, le moins que l'on puisse dire, c'est que la relation entre Cuba et les États-Unis est au plus bas depuis des décennies. Pour la reconstruire, Joe Biden va devoir prendre l'initiative.
Oui, alors, d'une part, c'est une exigence de la diplomatie cubaine. Ça a été dit et redit par plusieurs des dirigeants cubains. C'est à eux de prendre une initiative en ce sens. Je voudrais juste revenir sur les conséquences du fait d'avoir replacé Cuba sur la liste des États qui parrainent le terrorisme. Ça va être quand même compliqué. Joe Biden a annoncé qu'il avait l'intention de rétablir effectivement les voyages, la possibilité de voyage à Cuba, d'autoriser des compagnies aériennes pour ce faire et également de faciliter l'envoi des ce qu'on appelle les remessas, c'est-à-dire les envois d'argent, de telle sorte que la situation à Cuba, qui est extrêmement grave du point de vue économique et social, puisse s'améliorer. Mais il va rencontrer des difficultés, non seulement parce que sa majorité est fragile, y compris à la Chambre des représentants, mais au Sénat, elle tient à une voix. Or, une partie des démocrates, c'est une minorité, mais une partie des démocrates sur la question cubaine sont presque sur la même ligne que la majorité républicaine. Et deuxièmement, le fait d'avoir replacé Cuba sur cette liste noire, va être compliqué parce qu'il faut tenir compte que l'ensemble du renouvellement du personnel politique de l'appareil d'État est à l'ordre du jour, que Cuba n'est pas quand même dans l'ordre des priorités au centre. Et ce qu'a fait Mike Pompeo va retarder incontestablement la possibilité de revenir justement sur certaines des mesures qui ont été imposées par Trump. C'est aussi ça l'objectif. Parce que non seulement le personnel politique doit être changé, mais administrativement, c'est compliqué, une fois que ceci a été voté, adopté plutôt, de revenir dessus.
Le décret là-dessus n'est pas possible, Jeannette Abel, comme il l'a fait, Joe Biden, ces derniers jours.
C'est un ordre exécutif, mais cet ordre exécutif s'inscrit dans une politique déjà proclamée par Joe Biden de réconciliation avec les républicains, et donc il va falloir qu'il négocie sur ce plan. Alors il y a ces fameux lobbies économiques qui se trouvent à la Chambre des représentants et qui sont notamment dans l'agro-business, mais pas seulement favorables à une reprise de ses relations avec Cuba, mais incontestablement, ça va retarder tout cela et le rendre plus compliqué.
Alors, c'est parce que, Stéphane Witkowski, la question cubaine est une question qui précisément a une portée de politique intérieure aux États-Unis que ça va être difficile pour Joe Biden de détricoter ce qui a été fait par Mike Pompeo en replaçant Cuba sur la liste des pays terroristes.
Oui, et comme Jeannette Abel le précisait, la question cubaine transcende le clivage politique traditionnel entre démocrates et républicains. Vous avez plusieurs démocrates qui sont sur une ligne très dure, dans le sillage d'ailleurs de Bill Clinton, qui avait effectivement fixé dans le marbre, si je puis dire, par cette disposition qui avait été votée sous sa présidence pour que la levée de l'embargo relève uniquement du Congrès. Et il y a un certain nombre de sénateurs qui sont, Bob Menendez entre autres, sur une ligne dure, je dirais. Et vous avez les républicains aussi qui sont favorables à une levée de l'embargo, paradoxalement. Le vrai clivage, je dirais, c'est entre une partie, je dirais, du Parti démocrate et d'une aile plus progressiste qui était incarnée par Bernie Sanders, qui lui, effectivement, proposait une véritable politique différente s'agissant des relations avec Cuba. Là, le vrai test, me semble-t-il, ça sera l'activation, la prolongation ou non de le fameux titre 3 de cette loi Helms-Burton qu'évoquait Mathias Fekel, d'une part, et d'autre part, la possibilité de réintégrer, ou plus exactement de retirer Cuba de cette liste des pays qui parrainent le terrorisme, qui effectivement ne pourra pas se faire, d'un point de vue technique peut être fait très rapidement, mais comme Jeannette Abel le précisait, il y aura une négociation devant le Congrès, et il va falloir, de la part du président Biden, de son administration, de prouver en quelque sorte les raisons pour lesquelles il retire Cuba de cette liste. Et donc il va falloir, et ça ne sera probablement pas sa première priorité en effet.
Mathias Fekel, un commentaire ?
Oui, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par deux des meilleurs connaisseurs et spécialistes de Cuba. L'administration sortante savait très bien ce qu'elle faisait. C'est-à-dire qu'en réalité, elle force, avec ses dernières décisions, dans les tout derniers jours, elle force Joe Biden, s'il souhaite avoir une autre politique envers Cuba, à y engager beaucoup de capital politique, puisqu'il va être obligé de rouvrir des débats, alors à la fois des débats politiques et juridiques, Et donc, à y passer du temps, ce qui dans le contexte est compliqué. Donc, une relation plus apaisée entre les deux pays, qui à mon sens est nécessaire, est singulièrement compliquée par ces décisions-là.
Jeannette Abel, vous souhaitez rajouter quelque chose?
J'ajoute juste, puisque on est quand même un peu dans la politique internationale, il y a une échéance à la fin de l'année qui peut-être va faciliter un peu les choses. Il y a le sommet des Amériques qui va se réunir, qui réunit, vous le savez, tous les...
Un sommet annuel ou
biannuel. Qui réunit traditionnellement tous les chefs d'État d'Amérique latine et d'Amérique du Nord. Et je rappelle pour mémoire qu'en 2009, c'est à ce sommet des Amériques auquel assistait Hillary Clinton qu'avait été prise la décision de réinsérer Cuba au sein de ce sommet et de lui donner la possibilité d'y participer. Cuba n'a jamais voulu réellement faire partie de l'OEA,
l'Organisation des États d'Amérique,
mais par contre avait refusé de rentrer dans l'OEA, mais le sommet des Amériques est quelque chose qui est très important. Hillary Clinton avait été battue, la diplomatie américaine avait été battue lors de ce sommet. Donc, quelle va être l'attitude des chefs d'État latino-américains à la fin de l'année, c'est quelque chose qui va peser quand même dans la balance. Je rappelle que Joe Biden est quelqu'un qui connaît l'Amérique latine. Mmh. Il s'est rendu souvent en Amérique latine, ça n'a rien à voir sur ce plan-là avec Donald Trump. Ça va peut-être faciliter les choses, mais c'est à la fin de l'année 2021.
Stéphane Witkowski.
Juste peut-être une remarque sur l'âge du président Biden. Je pense que ça peut être un atout et un inconvénient. Un atout parce qu'il ne sera pas candidat à sa propre réélection. Ce qui peut-être effectivement lui permettre de prendre des initiatives un peu plus audacieuses vis-à-vis de ça. Je pense qu'il pourrait éventuellement faire un geste par rapport à l'embargo, mais dans cette hypothèse, il ne le ferait qu'après les midterm elections.
Les élections de mi-mandat.
À mi-mandat, pour disposer effectivement d'une majorité absolue, pour présenter sa dauphine, si c'est le cas. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, c'est un homme politique expérimenté, qui connaît bien évidemment tous les rouages parlementaires et la situation internationale. Mais en revanche, il est peut-être dans une culture un peu démocrate et est relativement peu ouverte, peu enclin en tout cas à prendre des initiatives un petit peu audacieuses, comme ça a été le cas pour Obama, président beaucoup plus jeune et qui n'avait pas connu, le passé des présidents et qui ont connu ces époques de la révolution cubaine. Alors, je crois qu'il y a un élément aussi qui peut jouer, c'est qu'il pourrait jouer une carte latino-américaine assez distincte de ce qu'il fera pour le Venezuela et que pour Cuba. Et peut-être qu'il va chercher à jouer plus finement entre les différents alliés de Cuba sur la scène latino-américaine. Et c'est un danger, effectivement, que les autorités cubaines surveillent de près.
Un commentaire, Jeannette Abel?
Oui, juste pour aborder quelque chose qu'on va peut-être discuter ensuite. L'autre problème, c'est qu'il va falloir qu'il fasse très attention dans sa façon d'aborder les choses vis-à-vis du gouvernement cubain. Parce que là, ils ont été un peu échaudés après. Il y a eu l'expérience de Barack Obama qui a été positive, mais après, il y a eu Trump. Et la leçon qu'ils en ont tirée, c'est quand même que, du point de vue de l'administration américaine, la confiance envers les engagements présidentiels était facilement ébranlable. Et donc, ils vont faire beaucoup plus attention. Et d'ailleurs, l'expression diplomatique qu'on entend de la part de Cuba aujourd'hui, face à l'élection de Joe Biden, on sent bien quand même que c'est plus positif, évidemment, que Donald Trump, mais ils mettent des conditions. Parmi les conditions, celles que ce soit Joe Biden qui prenne la première initiative, et d'autre part, ils énoncent une série de choses sur lesquelles il faut revenir, notamment sur le plan des échanges commerciaux, du tourisme, etc.
Bon, la question de confiance, elle est vraie dans la relation entre les États-Unis et Cuba et dans beaucoup d'autres relations. On le développera dans la deuxième partie de l'émission. Et à cela, on peut ajouter que le gouvernement cubain reste en tout cas sur ses positions. Le président a réaffirmé récemment qu'il n'allait céder pas d'un centimètre sur quoi que ce soit à propos de la politique cubaine. C'est la révolution, le socialisme et notre souveraineté. On vous retrouve, Mathias Feckel, Jeannette Abel et Stéphane Witkowski, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur Cuba, replacé sur la liste des pays qui parrainent le terrorisme par l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Regard sur Cuba et sa relation avec les États-Unis, avec nos invités. En studio, Jeannette Abel, politologue, enseignante à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Mathias Feckel, ancien ministre, avocat fondateur du cabinet Audi du préfet Feckel. Et Stéphane Witkowski, président de Bâle Conseil, enseignant à l'ILERI et président du Conseil d'orientation stratégique de l'Institut des hautes études d'Amérique latine. On a évoqué dans la première partie de l'émission les sanctions économiques décidées sous Trump. Il y en a eu 190 pour un coût total évalué aujourd'hui à 20 milliards de dollars. Alors, regard à ce stade de l'émission sur la situation économique de l'île. L'économie a chuté de 11% en 2020, qui a été sa pire année depuis 1993. La pandémie a privé l'île des devises, du tourisme et le renforcement de l'embargo américain. 2021 s'est ouverte avec une envolée des prix après la fusion des deux monnaies locales cohabitant depuis 26 ans pour supprimer le CUC aligné sur le dollar et ne laisser que le CUP qui vaut 24 fois moins. En quoi cette décision de fusion des deux monnaies était-elle nécessaire? Quel est l'objectif, Mathias Feckel?
Ça avait été introduit à l'époque, il y a un peu plus de 25 ans, pour mieux contrôler la circulation des devises, et notamment du dollar dans l'île. Alors, les effets étaient assez contrastés, et notamment, il y avait quasiment une dualité, en réalité, dans la société cubaine, entre ceux qui avaient accès uniquement à la monnaie locale, si j'ose dire, et ceux qui pouvaient avoir accès à la monnaie convertible, et en particulier les auto-entrepreneurs qui ont connu un essor important au cours des dernières années, toutes les personnes qui étaient en lien d'une manière ou d'une autre avec les touristes étrangers avaient de ce fait un certain nombre de facilités. Et donc ça a introduit dans la société cubaine une forme de différenciation qui était en réalité le contraire d'une promesse très égalitaire, voire égalitariste du régime.
Alors, Jeannette Abel, cette fusion des deux monnaies a eu pour conséquence une multiplication du salaire minimum, mais aussi une très forte augmentation des prix. Apparemment, les autorités ne s'attendaient pas à cet effet pervers. Les dommages sont assez forts. Est-ce que c'était une bonne idée de faire fusionner ces deux monnaies en pleine crise de la Covid-19?
C'est une bonne question, parce que c'est précisément un élément qui est contesté par certains économistes cubains. Alors, juste une précision, le nouveau peso cubain a été dévalué 24 fois moins maintenant que le dollar, si vous voulez, enfin une devise de référence, si on voulait généraliser un peu plus. L'économiste Pedro Monreal, qui est un économiste cubain qui travaille beaucoup sur ces questions, a évalué le coût de cette dévaluation à une inflation, si l'on veut le chiffrer, de 2400%. Ce qui est évidemment considérable. Il est vrai que les salaires ont été augmentés de manière très importante.
Enfin, pas 2400 fois.
Mais voilà, pas 2400 fois. Et donc, l'inflation existante est terrible. Et ce qui l'aggrave encore, c'est les pénuries. Parce que le problème de fond, c'est que l'offre est insuffisante et que par conséquent, les choses maintenant se passent en partie sur le marché noir, et au marché noir, les prix sont gigantesques. Et ça se traduit maintenant par une très grande pauvreté, des inégalités croissantes, et une déclaration de Marino Murillo, qui est le responsable de la commission qui met en application toutes les réformes économiques qui ont été décidées, parce qu'il n'y a pas que cette unification monétaire, qui est une unification des taux de change, hein, pas seulement des deux monnaies, a déclaré dans une toute récente émission à la télévision cubaine qu'il n'y avait pas d'argent pour tout le monde. Et alors je veux juste ajouter, et c'est la première fois que j'entends une déclaration pareille, qui donne une idée de la gravité de la situation, qu'il y a 21% de la population cubaine actuelle qui a plus de 60 ans, un problème démographique qui s'ajoute à tous les problèmes économiques et sociaux que l'on connaît, sans parler du Covid évidemment en plus, et donc ça donne une idée quand même de l'extraordinaire gravité, difficulté de la situation, qui est à la fois le produit, évidemment, premièrement, des sanctions économiques de Trump, mais deuxièmement, de problèmes de politique économique qui sont accumulés maintenant depuis longtemps.
Monsieur Quiron, la question de la levée des remessas particulièrement prioritaire, j'imagine, Stéphane Witkowski, on peut signaler au passage que, en ce qui concerne l'activité touristique de l'île, Cuba n'a reçu en 2020 qu'un million, un peu plus d'un million de visiteurs contre 4 300 000 en 2019. Stéphane Witkowski.
Oui, la question de la remessa, ça a été effectivement la chute des remessa, ça a été effectivement une des grandes difficultés et qui est une des principales sources de devises, hein, tourisme et transfert de fonds. Mais c'était effectivement l'objet des sanctions et c'était le but de la présidence de Donald Trump. Et on considère en effet que ces éléments conjugués avec la fermeture des frontières et de la Covid expliquent cette très grande difficulté économique actuelle du pays. Mais pour revenir peut-être à la question de l'unification monétaire, c'était une décision absolument indispensable à prendre qui avait été longuement annoncée et tout le temps reportée parce qu'elle pose des problèmes techniques, économiques, sociaux absolument considérables. Et en particulier, elle permettait aussi, c'était une réponse de la part de la population pour mettre fin à ces inégalités que Mathias Fekel signalait tout à l'heure. Et c'est aussi un moyen de relancer l'économie du pays en dopant la production locale avec une meilleure capacité d'exportation, avec bien entendu cette dimension salariale, un salaire qui a été multiplié par 5 et des pensions aussi avec la question inflationniste. C'est très technique et compliqué à gérer. Et c'est une décision assez courageuse que le gouvernement actuel a entreprise, mais je crois qu'il n'avait pas tellement le choix. En fait.
Alors, décision courageuse, en tout cas, effectivement. Choix. Avec la pandémie, peut-être nécessité de réajuster les choses. En tout cas, on l'a bien compris, une accumulation de points négatifs. Mathias Fekel, il faut s'inquiéter pour Cuba?
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il faut, je pense, insister sur la gravité de la situation économique. Sans doute est-on à la veille d'une des plus graves crises économiques depuis le début des années 90. Vous savez qu'au moment de la disparition de l'Union soviétique et de tout le bloc de l'Est, qui étaient les principaux partenaires économiques de Cuba, s'était ouvert ce qui avait été appelé la période spéciale en temps de paix, c'est-à-dire une période de rationnement très forte et où on était vraiment à l'extrême limite de la famine et parfois au-delà. Aujourd'hui, beaucoup d'indicateurs sont très compliqués. Les grandes rentrées d'argent pour Cuba, ce sont certaines exportations, notamment le sucre, le tabac. Ce sont des rentrées du fait de sa diplomatie médicale. Énormément de médecins cubains sont présents dans le monde. Ce sont les envois d'argent, les fameuses remessas dont on a parlé par la diaspora cubaine, et c'est le tourisme. Et sur la plupart de ces rentrées aujourd'hui, évidemment, avec la pandémie, la situation est extrêmement compliquée. Donc il y a une gravité incontestable aujourd'hui, puis une responsabilité bien sûr cubaine, il ne s'agit pas de le nier, mais aussi internationale, c'est-à-dire que dans un contexte pareil, il me semble pour le moins problématique de durcir les sanctions, de serrer encore les choses, encore une fois, au vu de la situation. Donc tout est explosif aujourd'hui d'un point de vue économique et donc d'un point de vue politique également, avec en plus l'arrivée d'Internet un peu partout qui a ouvert l'expression. Et on est possiblement à la veille de changements importants à Cuba.
Alors, avec une inquiétude internationale, puisque Mathias Fekel évoquait la responsabilité internationale, Jeannette Abel, c'est la Chine aujourd'hui, deuxième partenaire commercial des pays latino-américains, très présente au Venezuela, grand allié de Cuba. Et il est évident que Pékin regarde la façon dont la relation entre La Havane et Washington pourrait évoluer avec beaucoup d'intérêt.
Ah oui, la Chine est très présente du point de vue des infrastructures, des investissements. Ceci dit, ce sont des hommes d'affaires, hein, ils ne font pas de cadeaux. Et je cite au passage le fait que la pandémie, il faut le dire, a été maîtrisée de manière assez remarquable au début par Cuba, mais elle repart dès lors qu'on a facilité un peu plus les entrées de touristes à Cuba. Et elle repart de manière grave. Il y a un vaccin cubain qui est expérimenté en Iran actuellement. Mais la situation est effectivement très difficile. Je raconte juste une anecdote, c'est que quand les Cubains qui ont des entreprises communes, des joint ventures avec les Chinois, notamment en matière de biotechnologie et de médicaments, ont eu besoin à un moment donné de médicaments et qu'ils les ont demandés, ça a été un refus parce qu'ils ne pouvaient pas les financer. Il faudrait dire deux mots de la Russie, les relations changent un peu aussi. Donc les aides chinoises, entre guillemets, sont avant tout des intérêts commerciaux. Alors, je voudrais juste rebondir. C'est vrai que ce pays, qui est une île de 11 millions d'habitants, est attaqué. Enfin, cette histoire d'embargo, ça fait 60 ans que ça dure. C'est le seul pays qui, même l'Iran, n'a pas connu une période aussi longue. C'est un acharnement quand on pense au nombre de morts qu'il y a eu au Vietnam par rapport aux États-Unis. Il n'y a aucun problème dans la relation entre le Vietnam et... Bon, voilà. Juste un mot par rapport à ce que disait Mathias Fekel. Je suis tout à fait d'accord, ça rappelle, je pense même qu'on est très proche de ce qui s'est passé pendant la période spéciale, après la chute de l'URSS. Il y a une différence très importante, c'est que la légitimité du gouvernement actuel, ça n'est pas celle de Fidel Castro. Et à l'époque, la population avait une capacité de résistance aux difficultés économiques et sociales qui est amoindrie aujourd'hui parce que c'est la deuxième fois, parce que ça fait longtemps que ça dure, et ça rend la situation interne très problématique et incertaine.
Alors on reviendra sur la question de la légitimité du gouvernement, très rapidement, puisque vous l'évoquiez, la question de la Russie. Alors, je reviens sur la Chine, qui est présente dans l'île depuis une quinzaine d'années, qui a remplacé l'ex-URSS. La Russie qui se désengage progressivement, Moscou a effacé en 2014 une dette de 35 milliards de dollars, et suspendu il y a peu un contrat d'un peu plus de 2 milliards de dollars de rénovation des infrastructures ferroviaires. Et puisque vous l'évoquiez aussi, la question de la pandémie, j'ai compris que Cuba s'était fixé pour objectif, et je me tourne vers vous, Stéphane Witkowski, de créer le premier vaccin anti-Covid d'Amérique latine.
Oui, Cuba a lancé un essai clinique.
Mais Cuba, dont on peut préciser qu'elle a une expérience vieille de 30 ans dans la production de ses propres vaccins, ce qui mérite d'être souligné en tout cas.
Tout à fait. Alors si Cuba est un petit pays en termes de PIB sur la scène internationale, c'est un géant sur le plan médical, c'est une vraie puissance médicale. Et ça, c'est une vieille tradition depuis le début de la Révolution. Et ils envoient régulièrement des médecins et des techniciens dans le monde. Et effectivement, le gouvernement cubain a envoyé ce qu'on appelle les brigades blanches, c'est-à-dire ces médecins qui sont allés dans une quarantaine de pays pour lutter contre la Covid, et notamment dans trois pays européens, dont la France, via la Martinique. Et c'est cette tradition internationaliste de solidarité s'applique dans tous les domaines. S'agissant de ce vaccin expérimental, d'après ce qu'on comprend, l'étude devrait être terminée, disons, mi-janvier, les résultats disponibles début février. Nous verrons à ce moment-là ce qui n'en sera.
Alors, mi-janvier, nous y sommes déjà, donc peut-être un petit peu plus tard dans le mois, avant donc début février. Alors, j'aimerais qu'on aborde, parce que je crois que c'est Jeannette Abel qui le disait précédemment, il n'y a pas d'argent pour tout le monde à Cuba, ou Mathias Fekel, je ne sais plus. En tout cas, je rebondis là-dessus. En novembre dernier, mouvement de protestation mené par 14 membres d'un collectif d'artistes pour réclamer la libération d'un rappeur arrêté quelques jours plus tôt. Manifestation pour réclamer la liberté d'expression. Est-ce qu'il y a là quelque chose qui pourrait prendre corps et dégénérer peut-être avec ce qu'on évoquait précédemment, la situation particulièrement compliquée sur le plan économique de Cuba, et puis signaler sur le plan politique que 2021 sera marqué par le départ de la direction du parti de Raúl Castro, qui pour lui succéder, un changement politique se dessine-t-il, Mathias Fekel?
Une génération est en train de quitter le pouvoir, c'était le cas avec le départ de Fidel Castro, puis son décès, bientôt le départ de son frère Raúl Castro. Sa légitimité n'était évidemment pas issue des urnes, mais c'était une forme de légitimité historique, issue de la Révolution, et qui donnait une sorte d'aura très importante. Maintenant arrive une nouvelle génération qui n'a pas connu la Révolution, qui était soit enfant, soit est née après. Moi, j'ai le sentiment que dans la société cubaine, en particulier dans la jeunesse cubaine, il y a une aspiration forte à plus de liberté, une possibilité à s'exprimer davantage, que le Internet et les réseaux sociaux, évidemment, incarnent d'une certaine façon. Puis un attachement à certains acquis, en termes éducatifs, en termes de santé, on évoquait tout à l'heure la recherche cubaine, la médecine cubaine, et donc il y a un chemin assez étroit en réalité à parcourir, parce que vous avez plusieurs scénarios. Vous pouvez avoir un durcissement du régime très fort, un repli autoritaire, autocratique. Vous pouvez avoir une ouverture progressive. C'est ce qui est tenté aujourd'hui en matière économique, avec la volonté d'assouplir les choses, et sans aller vers un modèle capitaliste, d'aller vers une économie plus ouverte, plus entrepreneuriale, et plus de place faite à l'individu. Et puis, vous pouvez avoir aussi un bouleversement complet. Donc en réalité, je pense que beaucoup de choses se jouent à Cuba en ce moment et qu'une partie de la réponse est entre les mains des intellectuels, des artistes, des jeunes, de toute une nouvelle classe sociale qui a émergé aussi avec cette auto-entreprise et qui a envie d'apporter sa contribution, mais qui a souvent aussi envie de garder une part de la spécificité cubaine. Donc c'est très nuancé, très complexe ce qui se joue aujourd'hui à Cuba.
Jeannette Abel, beaucoup de choses se jouent à Cuba en ce moment. Vous partagez ce que vient de dire Mathias Fekel?
Je crois que c'est un moment historique très particulier. Et il est très particulier parce que, effectivement, la légitimité de la direction actuelle, dans une situation de crise économique et de très grandes difficultés sociales, n'autorise pas les mêmes espaces politiques que à l'époque où Fidel Castro dirigeait, indépendamment du jugement qu'on peut avoir sur Fidel Castro. Mais ce qu'il pouvait faire, comme il l'avait fait lors d'une manifestation en 1994, c'est-à-dire s'approcher d'une foule seule, sans armes, et puis à ce moment-là obtenir la dissolution de fait de la manifestation, qui est une manifestation de protestation très grande, eh bien la direction actuelle aura beaucoup plus de difficultés à le faire. Et je veux juste signaler, comme vous l'avez dit, qu'on a assisté à quelque chose que je n'avais pratiquement jamais vu, un sit-in devant le ministère de la Culture, de 300 personnes, 300 intellectuels et artistes, qui protestaient, ça c'était le prétexte, contre la condamnation à 8 mois de prison d'un rappeur très anticastriste. Non. Et la pétition qui a suivi a rassemblé des centaines et des centaines de signatures, et notamment des signatures de gens, de personnalités qui sont soit membres du parti, soit en tous les cas qui s'estiment proches de la révolution, et ça non plus ne s'était jamais vu. Donc il y a une aspiration maintenant qui, je crois, est mal comprise par certains secteurs du régime, qui est une aspiration effectivement à plus, tout simplement, d'ouverture, de liberté d'expression et d'ouverture démocratique.
Stéphane Witkowski, en guise de conclusion.
Simplement, la difficulté pour le gouvernement cubain, c'est de tenir compte à la fois de l'évolution de la société civile et du bouillonnement intellectuel depuis une dizaine d'années qui est absolument considérable dans l'île, et en même temps cette nécessaire vigilance par rapport à d'autres tentatives de, et ça c'est la, je dirais, les suites de la comète Trump, si on peut dire, des tentatives de déstabilisation réelle, et tous ces événements qui ont eu lieu récemment ont beaucoup à voir avec les tentatives de déstabilisation, les opérations de sabotage, les attaques contre l'ambassade de Cuba à Washington, les actions de mercenaires et de terroristes sur le sol cubain depuis août dernier jusqu'au printemps et jusqu'à ce jour, des actes de vandalisme contre les statues, contre José Martí, etc. Et tout ça, c'est totalement commandé et inspiré par des mouvements terroristes. Terroristes, plus exactement, sous l'égide de mouvements qui ont été encouragés par les équipes de Donald Trump. Et ça, c'est factuel. Donc c'est très difficile pour eux de lâcher la bride sur le plan des libertés publiques, en particulier dans le domaine culturel, avec, en effet, cette vigilance absolument indispensable dans cette phase de transition, avec le changement et le départ de Raúl Castro lors du prochain congrès, et une nouvelle équipe gouvernementale qui doit effectivement être redoublée de vigilance. C'est pour ça que je ne suis pas certain qu'il y aura, en tout cas, des signes très significatif, si vous voulez, vers une, une plus grande ouverture politique, en tout cas dans les prochains mois.
En tout cas, nous nous donnerons l'occasion de reparler de Cuba. Merci Stéphane Witkowski. Je rappelle que vous êtes président de Bâle Conseil, enseignant à l'ILERI et président du Conseil d'orientation stratégique de l'IHEAL. Merci également Mathias Feckel, l'ancien ministre, avocat, fondateur du cabinet Audi du Pré Feckel, et Jeannette Abel qui était avec moi en studio, politologue, enseignante à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Demain, nous parlerons précisément de la relation entre Pékin et Washington. À demain.